jour, de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, pour remonter le temps sur les traces des premiers forgerons en Afrique. L'art de frapper le fer, mais aussi de l'extraire, de le transformer et de le diffuser, a une très longue histoire sur tout le continent. Pleine d'enseignements matériels, géologiques, économiques, politiques, culturels et spirituels. Cette histoire, cette préhistoire de la métallurgie en Afrique, longtemps occultée, négligée, est aujourd'hui mise au jour et étudiée par des paléométallurgistes passionnés, comme notre invitée, Caroline Robion-Brunner, archéologue, ethnologue et historienne de la métallurgie en Afrique, qui depuis son premier terrain de recherche avec et chez les Dogons au Mali, jusqu'à son actuel poste de chargée de recherche au Centre d'études éthiopiennes à Addis Abeba, en passant par la région du Dendi au Bénin, a exhumé quelques-unes des mille et une manières de transformer le fer et les métaux. Pourquoi ton four n'est pas comme le mien, que nous apprend la paléométallurgie sur le continent. Voilà ce que nous allons découvrir ensemble autour de la question « Que sait-on des premiers forgerons africains ?» et comment retracer cette extraordinaire culture de la métallurgie en Afrique. Bienvenue.
Par exemple, au pays Dogon, Inagina, qui veut dire la maison du fer, et on voit combien c'est un lieu d'échange, hein, ce four de transformation. Et donc, maison du fer, il y a certains mots du fer qui renvoient vraiment au minerai, donc à cette roche. Quelle idée de se dire qu'elle contient et qu'on va l'extraire. Alors, c'est vrai aussi qu'au niveau géologique, ce continent, il est plein de fer. Hein. Il est sur des formes très variées aussi. Donc, on a des hématites, on a des minéraux lithiques, on a du grès ferrugineux. C'est pour ça aussi qu'on travaille avec des géologues qui nous permettent de tracer. Et derrière ces techniques, je dirais, c'est aussi les hommes et leur rapport à la terre qu'on interroge.
Bonjour Caroline Robion-Brunner.
Bonjour.
On est bien content de vous avoir attrapé avant que vous ne retourniez en Éthiopie. Vous êtes directrice de recherche au Centre d'études éthiopiennes à Addis Abeba. Vous êtes rattachée au laboratoire Trace de l'Université de Toulouse. Alors, comment vous qualifiez ? Vous êtes paléométallurgicienne ? Enfin, comment est-ce qu'on vous définissez votre travail et votre fonction, Caroline ?
Alors, elle se modifie hein, à travers le temps. Aujourd'hui, je dirais que je suis historienne des métaux en Afrique. Parce qu'en fait, avant tout, c'est restituer l'histoire des métallurgistes et l'usage des métaux à travers le temps sur le continent africain.
Comment et pourquoi avez-vous choisi justement ce terrain de recherche-là ? Donc, à la fois la métallurgie, on sait à quel point c'est important, méconnu aussi, sur le continent africain. Qu'est-ce qui vous a poussé vers cette histoire ou proto-histoire-là de la métallurgie en Afrique, Caroline Robion-Brunner ?
En fait, durant ma formation, des lectures m'ont poussée vers l'Afrique, plutôt que vers la métallurgie au départ. Éric de Rony, Les yeux de ma chèvre, ont été un déclic sur mon intérêt sur l'Afrique, sur le continent africain. Et j'étais en histoire de l'art archéologie, j'ai suivi quelques cours et Philippe Andrieux, qui donnait des cours sur l'histoire des techniques, avait un volet sur la métallurgie, il faisait de l'expérimentation. Et en fait, j'ai pu, durant ma thèse de doctorat à l'université de Genève avec Eric Wiscom, allier ma passion sur l'Afrique et puis cet intérêt sur la métallurgie. Donc au pays Dogon, au Mali, ça a commencé comme ça.
Qu'est-ce que vous avez trouvé, découvert, cherché au Mali, en pays Dogon, sur ces premiers forgerons africains ?
En fait, tout l'intérêt de mener des recherches en Afrique et sur des périodes médiévales et contemporaines, c'est de pouvoir faire parler la matérialité. C'est-à-dire qu'on a à la fois la chance d'avoir des vestiges, des éléments inertes dans le sol, enfouis, des traces. Et on peut les faire parler parce qu'on peut interroger aussi les personnes actuelles sur leur passé, sur leur mémoire, sur ce qui se transmet. Et donc, c'est vraiment un croisement des disciplines. C'est pour ça qu'il y a de l'archéologie, il y a de l'histoire, il y a de l'ethnohistoire. Tout ça se conjugue et c'est vraiment l'histoire des hommes qui ont transformé la matière. Et la transformation de la matière, rapidement, on s'aperçoit qu'il y a de l'ésotérisme derrière. Il y a aussi de l'économie, des choses, je dirais, très factuelles. Des conflits, la démographie, voilà, ça engage plein de choses.
Depuis quand, au Mali, justement, ça a été votre premier terrain de recherche, depuis quand les Dogons ont travaillé le fer, ont transformé le fer ?
Donc, les fouilles qu'on a pu faire donc avec l'équipe suisse montrent qu'à partir du 7e de notre ère, on a de la transformation du fer sur le plateau de Bandiagara, donc au pays Dogon. Après, on a des vestiges dans des tombes d'objets de fer qui sont beaucoup plus anciens, qui sont tout début du premier millénaire, voire un petit peu avant. Mais là, on a l'usage de ce fer, puisqu'il y a les objets, mais on ne sait pas s'ils ont été fabriqués sur place. Donc, c'est tout l'intérêt de poursuivre les recherches. Alors, elles ne sont plus possibles au Mali, il faudra attendre pour pouvoir refaire de l'archéologie. Mais on sait qu'en Afrique de l'Ouest, de manière générale, on a les premiers sites de transformation de la première au premier millénaire, début du premier millénaire avant.
Et quels objets vous avez trouvés, justement, quand vous parlez de traces ?
Ces objets, c'est avant tout des lames, des couteaux, il y a aussi des pointes de flèches. Donc, c'est pas des objets agraires, il faut attendre. En fait, on a très peu, par exemple, d'objets agraires, alors qu'on sait pertinemment que la métallurgie, elle est avant tout pour l'agriculture. Si on pouvait donner un pourcentage, on est dans des sociétés agraires, donc ça va être 70% du fer qui va avoir un usage agraire. Puis après, on va avoir un 20% d'outillage divers et variés. Et puis en fait, la chasse ou l'armement, il est là que pour 10%. Donc c'est vraiment très peu. Mais c'est ce très peu qui va plutôt faire l'objet de dépôts votifs. On soupçonne en fait que les objets agraires, et d'ailleurs l'ethno nous aide beaucoup à comprendre qu'un objet agraire, on va l'utiliser, le réutiliser, le réaffûter, le transformer. On est quand même si on a des montagnes de déchets, on est dans du fer qui n'est pas en grand surplus. Donc il est ultra consommé jusqu'à ce qu'il n'y ait que des rognons et qu'on ne puisse plus en faire. On n'est pas du tout dans des sociétés comme on peut avoir en Europe ou romaine, où on va avoir des sociétés, j'appelle du clou, c'est-à-dire où on va mettre du fer dans l'architecture. Et donc en fait, avoir perdre un usage, c'est-à-dire un clou, quand on l'a utilisé, c'est terminé. Donc ça, là, souvent, quand on a dans des sociétés l'apparition du clou, on a un usage de surplus de quotidien. Là, on est quand même encore dans quelque chose de précieux.
Et dans du recyclage, au fond, dans des sociétés de recyclage. Oui. Alors, vous avez mené ensuite un projet, on a d'ailleurs emprunté le titre de votre article pour notre émission, un projet au Bénin. Pourquoi ton four n'est pas comme le mien ? C'est autour de cette question-là que je vous interroge, Caroline Robion-Brunner, mais c'est une vraie question, ça, parce qu'en fait, il y a une diversité étonnante de fabrication, d'utilisation du fer et des forgerons dans toute l'Afrique de l'Ouest.
Oui, en fait, c'est très surprenant à la fois parce que on a une métallurgie qui fait du fer directement. Hein. On a jamais fait de fonte en Afrique. Donc c'est de la métallurgie qu'on appelle directe. On n'a pas du tout, comme en Europe et en Asie, l'apparition de l'indirect qui permet de faire de la fonte. Donc un métal coulé en alliage ferreux. Donc là, c'est du fer qui se forge, fer ou acier, mais qui se forge. Et ça, c'est jusque à la colonisation, donc jusqu'au 20e. Donc on a à peu près, voire plus loin, 3000 ans d'une production de fer et de l'acier. Et on s'aperçoit très vite, quand on s'intéresse à cette question, qu'il y a une diversité des techniques pour faire ce fer et cet acier, inégalée ailleurs dans le monde, à la fois dans la morphologie des fours. Il y a des grands, des petits, des parois tronc coniques, oblongues, des fours ballons. Enfin voilà, il y a déjà, on peut y faire des scarifications sur son four. On peut même, certaines populations y mettent des seins parce qu'il y a la fécondité. Donc il y a une diversité morphologique, diversité de dimensions. Et puis on peut faire fonctionner son four avec des soufflets. Enfin, on a toute une panoplie. Et on ne peut pas y mettre derrière que des fonctions économiques. On ne peut pas se dire, c'est pour produire plus de fer ou moins de fer qu'on a cette diversité. Ça ne marche pas. On a aussi les travaux, mes premiers travaux au Mali avaient commencé à le montrer, c'est-à-dire sur un espace, le pays d'Ogon, c'est comme l'île de France, donc c'est vraiment un petit territoire. Eh bien, j'avais trouvé 5 ou 6 techniques différentes dans ce petit territoire, dont 5 étaient contemporaines. Et les gens, on savait qu'ils avaient des échanges, ce n'étaient pas des affreux qui ne se parlaient pas, ils avaient des échanges, et donc il y avait sciemment une volonté de garder sa technique, alors qu'on sait que le voisin fait différent. Et ça, ça en fait traduit pour le pays d'Ogon, une histoire en fait, une origine sociale et historique différente de ces populations qui avaient conservé leur technique comme un peu une identité.
Votre démarche totalement interdisciplinaire, vous parlez d'ethnologie aussi, parce qu'au fond, ce fer, cette manière de le produire, de le travailler, de l'utiliser, tous ces fours qui sont différents, ce sont des cultures qui sont différentes, c'est une histoire, c'est une cosmogonie, c'est une spiritualité différente, c'est ça. Il y a derrière des histoires et des cultures.
Il y a des histoires, des cultures, et elles sont difficilement modifiables. Et le Bénin, par exemple, ça a été mon autre terrain où j'ai pu continuer sur cette question de la diversité et m'apercevoir qu'il y a une grande différence entre produire le fer et fabriquer des objets. Fabriquer des objets, c'est un acte purement technique. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer, et d'ailleurs les mythes autour des forgerons sont très éclairants, souvent les figures tutélaires qui apportent donc soit des génies, soit des dieux, etc., qui apportent cette technique, ont un bras en forme de marteau, l'autre en forme de pince, et on voit combien le corps travaille dans cette forge. Et le marteau ou la pince est un prolongement de la main. Et donc c'est un acte technique, on modifie la forme du fer. Alors que dans le four, donc la partie où on a la transformation du minerai en masse métallique, eh bien, quand on a mis son combustible, le charbon de bois, son minerai dans cette colonne, qu'on met le feu, après on est à l'extérieur du réacteur. Et quand on a la chance de voir, de participer ou de faire de l'expérimentation, on s'aperçoit combien cette transformation d'une pierre qui est certes un peu lourde, mais si on tapait dessus, on ferait jamais un couteau, on ferait jamais une hache. Eh bien, on a transformé chimiquement, physiquement. Et donc, les maîtres métallurgistes, ils donnent une vision du monde en transformant la matière. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent des interdits, des tabous. C'est auréolé de plein de croyances parce qu'on touche en fait à la transmutation de la matière. Et donc ces changements techniques, ils sont lents, ils sont contraints, souvent forcés de l'extérieur. Et du coup, c'est vraiment de l'interdisciplinarité obligatoire. On ne peut pas s'en passer, on est obligé. Alors, en Afrique, on a la chance de pouvoir interroger. En Europe, souvent, ces techniques, elles ont disparu il y a 4-5 siècles.
C'est ça la grande différence, oui. En fait, Caroline Robion-Brunner, c'est que la plupart de ces techniques, vous pouvez aujourd'hui en Afrique interroger des forgerons qui continuent ou qui ont le souvenir de ces techniques et aussi de cette alchimie, hein, parce qu'il faut du feu, il faut transformer la matière. Mais l'intérêt en Afrique est que quoi ? Ces techniques, ces traditions, cette vision du monde, cette transformation, il y a un souvenir, il y a un vrai souvenir dans les têtes des
oui,
gens aujourd'hui.
Il y a encore un vrai souvenir qui est en train de disparaître. Mmh. La forge continue. La réduction, elle a pratiquement disparu. Il y a par contre par exemple, je pense au festival de Kaya au Burkina Faso, où on réunit d'anciens métallurgistes ou de fils de métallurgistes pour échanger sur ces techniques et parfois reconstruire des fours. Donc il y a des fois comme ça des activités de renaissance de techniques anciennes, mais on voit bien ça a marqué le paysage et les mémoires, et ça s'est terminé pour les plus récentes, oui, 1950, 1960, c'est pas si vieux. Donc il y a encore le forgeron, ou la figure du métallurgiste, elle a une place. Et d'ailleurs... J'ai jamais eu de difficulté à travailler sur la métallurgie ou à interroger les gens sont dans les campagnes, parce que c'est il y a souvent les vestiges d'un four au bord du village ou des déchets qui on s'est installé sur les déchets, donc c'est encore il y a les trous des mines ou qu'on camoufle pour pas tomber dedans, mais donc on sait qu'elles sont là, donc c'est vraiment ça fait partie encore du quotidien.
Est-ce qu'il y a des tabous particuliers autour, justement, vous disiez, vous n'avez pas de difficulté pour en parler, c'est toujours là, mais est-ce qu'il y a des tabous autour du forgeron, autour de vous venant enquêter? Enfin, est-ce qu'il y a des tabous autour de cette archéologie du fer, Caroline Robion-Brunner?
Alors, il y a des tabous, je pense, j'en suis même sûre, quand on fait du fer. Parler du fer, il y en a moins. Et il y a des tabous avec des grands S, c'est-à-dire là aussi, l'Afrique, elle est immense, elle est diverse, et donc les tabous sont aussi divers, les organisations sociales sont aussi diverses. Au Mali, pays d'Ogon, c'était une société endogame. Les forgerons sont encore exclus par le mariage. Ils avaient d'ailleurs énormément de tabous sur la production du fer, c'était un peu à l'extérieur du village. Les femmes n'avaient pas le droit de se rendre pendant la réduction, ou alors il fallait être ménopausée ou ne pas avoir ses règles pour pouvoir s'y rendre, parce qu'il y avait un moment qui touche à la création. Et on ne peut pas être père réel et père du fer. Donc on partage en genre ce monde-là. Mes travaux récents au Pays Bassard, au Togo, on n'est pas du tout dans cette situation. D'ailleurs, certainement pour une raison économique, c'est une région qui a énormément produit de fer, qui produisait pratiquement toute l'année du fer. Et donc, on a des populations qui ont organisé où les femmes et les enfants étaient à la mine pour extraire et apporter les matières premières auprès des fours. Par contre, là aussi, durant la réduction, il y a un partage des tâches. Mais les femmes sont beaucoup plus... Elles font le combustible, le charbon de bois. Elles sont plus intégrées dans cette chaîne opératoire.
Autour de la question des mille et une manières de frapper le fer en Afrique, je propose de nous arrêter en musique sur la place centrale et symbolique de tous ces forgerons. Ce sont eux qui fabriquent les instruments de musique aussi dans toute l'ère mandingue, la caste des forgerons, à laquelle appartiennent tous les Kanté, comme Diefadima Kanté, une voix puissante, la sœur du célèbre guitariste et chef d'orchestre des ambassadeurs de Guinée, que l'on écoute tout de suite sur RFI, Diefadima Kanté. Aujourd'hui, Caroline Robin-Brunner, vous dirigez un grand programme de recherche en paléométallurgie au Togo, au Bénin et au Ghana. Vous êtes directrice de recherche et basée désormais, vous allez y retourner, à Addis Abeba en Éthiopie, au centre d'études éthiopiennes. Quelles recherches vous menez en Éthiopie et comment travaillez aussi, vous avez parlé du Mali où on ne peut plus aller, de l'Éthiopie où la situation est complexe. Comment est-ce qu'on travaille en tant qu'archéologue, ethnologue, historienne des métaux et de la métallurgie en Afrique en ce moment en Éthiopie ?
Donc, une carrière, elle est longue et elle a des étapes. Et aujourd'hui, j'ai certes un projet de recherche personnel en équipe qui donc est sur le Bénin-Togo-Ghana. Mais aujourd'hui, j'ai le devoir d'enseigner, de former, de mettre la puce à l'oreille sur cette paléométallurgie. Et en fait, l'actuelle directrice du CFE, Marie Bridonneau, qui est géographe, m'a demandé il y a 2 ans, parce qu'elle voyait bien les missions archéologiques, certaines questions qui étaient évoquées, mais qui ne prenaient pas en compte la métallurgie, eh bien, m'a demandé de demander un rattachement, une affectation à l'étranger, en Éthiopie, pour informer sur ce pan de la recherche et essayer bien de prendre conscience que la paléométallurgie, ça permettait de voir différemment certaines pans de l'histoire. Donc, vu la situation qui permet peu de terrain ou des aménagements, j'y mène en recherche quelques missions plutôt en ethno, mais beaucoup de formations auprès des étudiants de l'université d'Addis Abeba.
Ils sont friands, ils sont demandeurs. Comment est-ce qu'il s'agit en fait de les alerter finalement sur l'intérêt des questions soulevées par la paléométallurgie dans la préhistoire et l'histoire de l'Afrique?
Déjà, en fait, il faut toujours parler et partir de ce qu'on a en commun. Donc, par exemple, avec le grand projet sur les églises creusées de la Libella.
En Éthiopie.
En Éthiopie, projet où Marie-Laure Dera en est la directrice, faire comprendre aux étudiants et aux collègues éthiopiens que pour les creuser, il y avait des outils. Et que les traces sur ces églises, c'est des traces d'outils en fer. Donc leur faire comprendre que même en négatif, même si on a pour l'instant pas d'outils qui ont été découverts et qu'on n'a pas cherché les lieux de production, mais il va falloir les chercher parce que derrière, il y a les ouvriers, il y a ces églises, c'est des témoins de la métallurgie du fer. Donc voilà, comme ça, on avance et on leur fait prendre conscience. Et là, d'ailleurs, j'ai un étudiant qui, aujourd'hui, mène des enquêtes ethno autour de la Libella et des villages sur l'histoire des métallurgistes de la zone. Donc voilà, c'est comme ça qu'on aborde aussi ces questions-là, c'est leur dire ça a une importance aussi l'apparition de l'agriculture. Quand est-ce que la métallurgie va permettre d'accroître cette reproduction? Voilà, parce qu'en fait, avant que j'arrive, certes, il y a des objets qui avaient été trouvés, mais la question de comment étaient faits ces objets avait été peu, voire pas abordée, sauf par un collègue qui est actuellement au Collège de France, Ilouf Béré, qui a découvert à proximité de Mekele des ateliers de métallurgie du fer, période aksumite et post-aksumite, qui montrent des productions locales de fer, alors qu'on pensait que ce fer était peut-être importé du Yémen. Et là, on a la preuve donc de cette transformation sur place.
Et grâce à un doctorant chercheur éthiopien.
Éthiopien, alors qui enseignait à l'université de Mekele, qui est maintenant au Collège de France.
Vous me rappelez son nom?
Ilouf Béré, et qui avait fait sa thèse à Thrace.
Dans votre laboratoire.
Dans le laboratoire, et on se connaissait. Et j'aurais jamais imaginé à l'époque qu'ils me contactent et qu'ils me disent « Tiens, j'ai trouvé de la métallurgie, qu'est-ce qu'on en fait ?» Donc voilà.
En Éthiopie, arrêt sur l'Éthiopie justement, où vous deviez travailler avec le géoarchéologue Laurent Bruxelles. Ça va certainement se faire. Lui-même a daté le squelette de Little Foot, du plus ancien australopithèque découvert en Afrique du Sud. Et il a précisément une question à vous poser sur vos recherches en Éthiopie, menées probablement en commun. On l'écoute.
Caroline, on devait être ensemble ce mois-ci en Éthiopie. Puis finalement, le calendrier était...
Parce que vous travaillez sur...
Là, c'est sur les sites où il y a, dans le sud de l'Éthiopie, où il y a les stèles phalliques. Et donc là j'étais allé. Et donc, elle doit venir parce qu'il y a des ateliers de sidérurgie aussi dans ces régions-là. Et une des questions, c'est effectivement comment ces matériaux sont mis en forme, comment ils sont prélevés, et est-ce que du coup on a déjà de la sidérurgie? Est-ce qu'on est dans des sites uniquement symboliques des sépultures, ou est-ce qu'on a un cadre de vie autour avec tous les ateliers de métallurgie, comme elle trouve un petit peu partout maintenant en Afrique?
Votre réponse, Caroline Robin-Brunner, à Laurent Bruxelles, sur justement, autour de ces extraordinaires et étonnantes stèles phalliques d'Éthiopie.
Alors, j'ai eu la chance de pouvoir faire une petite mission donc dans la région du Guédéo, où il y a ces stèles phalliques. Donc ça, c'était une mission en avril de cette année. Alors, je suis partie seule. Hélas, parce que les collègues européens, français ne pouvaient pas me rejoindre. Et donc, j'ai fait une première mission ethno qui montre qu'il n'y a certainement pas eu de production locale de fer, mais qu'il y a un usage du fer, avec notamment actuellement la culture de l'Enset, c'est le faux bananier, qui est transformé, qu'on peut en faire des farines, qui rentre vraiment à 80% dans l'alimentation de cette zone, et qui nécessite un outillage extraordinairement varié pour la transformation de ces feuilles, et donc un foisonnement de forgerons, très actif actuellement, très ancré dans la société, mais qui, dans les enquêtes, montre que le fer arrivait de l'extérieur. Alors, on sait que dans le nord de la vallée de l'Omo, par les travaux d'une collègue norvégienne qui a montré qu'encore en 2003, il y avait de la production du fer, peut-être que ça viendrait de là, mais il faudrait y retourner, enquêter, poursuivre. Mais on est vraiment au début, et c'est vrai que j'attends aussi la mission archéologique. Peut-être qu'on aura la chance de partir en octobre avec Vincent Haard, Anne-Lise Goujon, pour essayer, en parallèle de ces stèles phalliques, trouver les villages. Parce qu'en fait, dans cette région du Guédéo, on a le monde symbolique à travers ces stèles. On a le monde des morts. On a aussi certaines sépultures. Mais le monde des vivants, dans le passé, nous échappe complètement pour l'instant. Donc c'est passionnant, voilà.
C'est passionnant, et c'est vrai que du coup, l'histoire de la métallurgie nous révèle, c'est ce que vous disiez, hein, ce monde des vivants. Est-ce que les étudiants éthiopiens notamment avec qui vous travaillez, avec qui vous enseignez, est-ce qu'ils en ont conscience justement que c'est aussi une manière de révéler le vivant, le quotidien
Le quotidien, et ce qui est très frappant, alors là aussi, le nord de l'Éthiopie, le centre, le sud, n'est pas du tout pareil, mais on est quand même dans un système de caste, d'endogamie, où pratiquement, en fait, c'est ça aussi qui est fascinant, c'est que tous les étudiants ont des parents à la campagne. Et donc, ils ont cette figure du forgeron qui est quand même mise à l'écart. Et là, de leur montrer qu'elle était centrale, et qu'elle est en fait centrale, même aujourd'hui, pour l'agriculture, pour aussi l'ornementation des églises. La libella, il y a certes les outils en fer pour les creuser, mais toutes les croix, la plupart des croix sont en fer. Donc, ce fer, il est partout, en fait. Et on l'oublie. On l'oublie parce que c'est le quotidien, c'est pas l'or, c'est pas le précieux. Dans les métaux, c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté inaccessible. Mais il est là. Il est là partout. Même il est dans les bassines, dans les seaux. Enfin, voilà, il est autour de nous. Et il faut le regarder, et c'est ce que j'essaye d'enseigner.
À l'écoute d'Aïlé Chalo sur RFI, musicien éthiopien de la région de Guédéo, choisi par notre invitée Caroline Robion-Brunner. Merci pour ce choix.
Daïo, mutata, Tanchara da kata, Deyua mutata, Dayo da kata, Deyua mutata, Bushe da kata, Deyua mutata. Tutitite, Tutifada, Tutatetnete, Mamfuamada, Wachamagarma, Sadesagar, Bushe yodaka, Lundamaru, Tutitite, Tutifada, Tutatetnete, Mamfuamada, Wachamagarma, Sadesagar, Bushe yodaka, Lundamaru.
De la question de cette anthropologie, de cette archéologie du fer, autour de la question pourquoi ton four n'est pas le mien, tout de suite une nouvelle question pour vous, Caroline Robion-Brunner, soulevée par l'historienne, proto-historienne Anne Loerf.
La métallurgie du fer en Afrique donne des enseignements très différents de ce que l'on voit comme histoire des métallurgies en Europe. J'aimerais bien lui demander justement de quelle manière ça peut nous inviter à réfléchir autrement que dans ce schéma, d'une certaine manière, téléologique d'une histoire européenne des métallurgies et des sociétés.
Que pouvez-vous répondre, Caroline Robion-Brunner, à la proto-historienne consacrée, justement, qui travaille sur l'Europe, plutôt Anne Loerf ?
C'est vrai qu'on est très frappé déjà de l'évolution des métaux en Afrique, puisque au sud du Sahara, ce qu'on a aujourd'hui, les données nous montrent qu'on n'a pas un passage des métaux natifs, cuivre, or, argent, aux premières métallurgies des cuivreux. Puis après, on aurait les alliages, bronze, etc. Puis le fer. On a de suite le fer.
Ah oui.
On a de suite le fer. Et ça, c'est des schémas qui perturbent. Parce que le fer, pour le transformer, il faut 1300 degrés.
Comment on y arrive, hein ?
Comment on y arrive et comment on a l'idée ?
Bien sûr.
Voilà. Donc, alors ça, pour l'instant, je ne peux pas y répondre. Je ne peux pas y répondre parce qu'à l'échelle du continent, on a à peu près même pas 10 sites qui sont distants de milliers de kilomètres. Donc, en fait, y a tout encore à découvrir. Donc... cette histoire, elle est à écrire. On a des idées, mais elle est à écrire. Par contre, je pense que la paléométallurgie, jusqu'à présent, elle était faite par des africanistes, européens, occidentaux et africains, mais par des gens qui avaient fait des études sur l'Afrique. Et on commence à voir, et notamment, par exemple, je travaille avec Marie-Pierre Cousture, qui est archéomètre de Thrace et qui, jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'on travaille ensemble, n'avait travaillé qu'en Europe. Et je commence à inviter, en fait, des paléométallurgistes sur des terrains africains pour déjà m'éclairer sur ces terrains, avoir d'autres idées. Et j'espère... par ricochet, qui vont aussi apporter des manières de voir différentes. On ne pourra pas interroger les descendants des métallurgistes, mais peut-être qu'on pourra réfléchir sur tous ces aspects ésotériques de transmission des techniques, d'aussi peut-être de diversité, d'inscription sur le territoire. Est-ce que c'est proche ou pas du village ? Est-ce que du coup, ça veut dire quelque chose dans les relations ? Voilà. Mais ça aussi, c'est C'est un nouveau terrain.
Nouveau terrain, grand chantier. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous rêveriez peut-être de découvrir dans une prochaine mission en Éthiopie, où vous allez retourner, Caroline Robion-Brunner, ou bien au Togo, au Bénin, au Ghana, vous avez aussi ce grand projet de recherche.
Alors, sur le Bénin-Togo-Ghana, en fait, on est sur une question qu'on aborde depuis 2 ans. Donc, elle est toute fraîche. En fait, je suis intéressée maintenant de voir l'impact du fer européen sur la production locale du fer. Mmh.
Donc, en fait, est-ce que ça circulait ? Est-ce que...
En fait, on sait qu'avec la traite atlantique, 15e, 16e, 17e, les bateaux européens, dans les cales des bateaux européens qui viennent chercher les esclaves, ils sont chargés de barres de fer produits en Europe, ainsi que de manilles en cuivre et en bronze qu'ils échangent sur ces côtes. Et ils vont échanger des tonnes de fer. Et on ne sait pas très bien, en fait, encore aujourd'hui, quel va être l'impact de ce fer exogène. Est-ce qu'il va être utilisé pour faire autre chose ? Est-ce qu'il va être en parallèle de la production locale ? Ou est-ce qu'il va alimenter des zones qui étaient dépourvues de fer ? Ou alors est-ce qu'il va entraîner au fur et à mesure l'abandon de la production du fer ? Parce que ça nécessite beaucoup de personnes. C'est du travail long, compliqué. Les mines, c'est dangereux. Et donc, on s'arrête parce que le fer arrive tout fait. Et on ne fait plus que le transformer en objet. On sait aussi par les archives sur cette traite atlantique que les forgerons, alors sous le terme de forgerons, en tout cas les travailleurs du fer, vont être beaucoup devenir des esclaves. Ils sont vendus plus cher que les autres parce que sur le Nouveau Monde, ils font la forge. Ils font les outils. Et donc, ce sont des personnes recherchées par les esclavagistes et donc par aussi les pouvoirs africains, les royaumes africains qui vont en avoir, la ponction, qui vont entraîner cette ponction. Donc, peut-être aussi que l'arrêt de la métallurgie, elle est due parce qu'il va y avoir des départs et des transformations en esclaves. Donc, voilà, moi, je suis sur cette thématique.
Question énorme. Touche à l'attrait de l'esclavage, qui remue profondément, parce qu'au fond, elle touche à ce qu'on a fait, à ce qu'on est devenu, à pourquoi. Enfin, vraiment, là, ce sont des sujets terribles aussi.
Oui, et donc là, depuis 2 ans, on travaille dans le sud-ouest du Bénin avec mon collègue Didier Enda, Julien Mantenant, qui est à Trace également.
Dans notre laboratoire à Toulouse, voilà, et au Bénin.
Et au Bénin, et des étudiants béninois, et des agriculteurs, donc dans la commune d'Aplaoué, où on a découvert en fait un territoire voué à la métallurgie, qui s'est arrêté au 14e. Donc on essaye de comprendre pourquoi un arrêt brusque au 14e, alors qu'il produisait énormément de fer. On a aussi l'habitat qu'on n'a pas encore fouillé. On espère que cet habitat va au-delà. On a juste fait un sondage qui nous montre qu'il y a une période contemporaine de la production. On espère que cet habitat est poursuivi après pour voir pourquoi il y a eu cet arrêt et puis si on voit l'arrivée de ce fer européen dans ces campagnes. Enfin voilà, c'est des sujets moi qui m'animent. Et pour l'Éthiopie. Ce que j'espère, c'est avoir semé des petites graines dans les esprits des étudiants et des collègues et pouvoir les aider, les orienter et peut-être revenir dès qu'ils trouveront des chantiers, en tout cas collaborer. Je suis plus en Éthiopie aujourd'hui dans une démarche de collaboration et de formation, plus que d'un nouveau terrain.
Collaborer, former, et quand le pays, la situation le permettra, pouvoir que ce soit les étudiants et les archéologues éthiopiens eux-mêmes qui puissent aller sur le terrain.
Et même sur le Bénin également. Mais je suis plutôt dans cette démarche sur l'Éthiopie et puis sur cette côte. Donc cette côte Bénin, Togo et Ghana. animé cette question de l'impact du fer européen sur la production locale.
Merci infiniment Caroline Robion-Brunner. Bon retour en Éthiopie pour continuer de travailler sur la métallurgie et le fer en Afrique. Avant de repartir, peut-être un dernier petit choix musical. Je ne sais pas sur quel coin d'Afrique va-t-il porter, Caroline.
Moi, mon cœur, il est resté au Mali. Voilà, il est resté au Mali parce que je pense que c'est mes premiers terrains. Donc voilà, il y avait Saya de Oumou Sangaré. Saya, pour moi, c'était... mes premiers terrains, je les faisais avec un traducteur dogon qui m'a accompagnée sur tous mes terrains. Et on était en charrette. Et j'avais une petite radio et il était fou amoureux d'Oumou Sangaré. Et donc Saya, je pense qu'on l'a passé sur ce plateau de Bandiagara des milliers de fois. Et je m'en lasse pas. Et c'est des souvenirs. Voilà. Je reviens au Mali. Je me permets de de revenir à mes premiers sentiments de terrain.
Seya Oumou Sangaré sur RFI, que l'on dédie à tous nos auditeurs et auditrices au Mali qui nous manquent tant. Et puis je vous signale aussi, du côté de Kinshasa cette fois, en République démocratique du Congo, une formidable exposition Lovo sur les traces du royaume du Congo qui va être inaugurée le 1er octobre prochain à l'Institut français de Kinshasa, qui tournera ensuite dans les villes du pays, à Lubumbashi, à Bukavu, à Goma, qui est visible aussi en France, cette exposition Osezi, au pôle international d'interprétation de la préhistoire. Plus d'informations sur notre site, il y a le lien sur cette exposition réalisée par la mission archéologique franco-congolaise dans le massif du Lovo, menée par Geoffrey Emlich et Clément Mamboun Sangati, qui sont actuellement même sur les traces de la mythique capitale du royaume du Congo. Ça promet, ils feront une conférence le vendredi 30 septembre prochain à l'Institut français de Kinshasa. Merci à Thibaut Baduel à la réalisation et à Caroline Fillette en coulisses. On se retrouve demain, si vous le voulez bien, pour d'autres interrogations. Merci pour votre curiosité. Les informations à suivre sur RFI.